William Assanvo, bonjour.
Bonjour.
Comment expliquez-vous la multiplication des violences dans la zone des trois frontières depuis 2015?
Alors, je pense que la violence à laquelle on assiste est le signe des capacités d'adaptation et de résilience, notamment des groupes extrémistes violents. Ça montre aussi, il me semble, les limites qui ont été apportées par les différentes réponses jusqu'à présent, et principalement la réponse militaire, la réponse sécuritaire.
Alors vous dites dans votre rapport que les groupes extrémistes ne sont pas les seuls acteurs de la violence et vous vous intéressez notamment au conflit local entre les Peuls du Niger et les Daoussac du Mali. Pourquoi ces deux communautés qui cohabitaient pacifiquement depuis des décennies sont-elles en guerre aujourd'hui?
Alors effectivement, l'antagonisme entre les communautés Peuls du Niger et Daoussac du Mali remonte à plusieurs années. C'est un conflit qui au départ, s'est appuyé sur des questions d'accès aux ressources, notamment des difficultés auxquelles étaient confrontés des pasteurs Peuls qui allaient faire paître leur bétail au niveau du Mali. Et d'année en année, on n'est plus dans le domaine du conflit autour de l'accès aux ressources, mais c'est véritablement devenu un problème presque communautaire.
Et quelles sont les défaillances du côté de l'État, aussi bien au Mali, au Burkina Faso et au Niger?
Mais il y a tout d'abord un sentiment d'abandon des populations qui se sentent abandonnées pour faire face à ces situations-là.
William Assanvo, on dit souvent que les conflits locaux et communautaires sont exacerbés par les groupes extrémistes, mais vous, vous dites que c'est plus compliqué.
Oui, effectivement, c'est plus compliqué que ça, parce qu'il y a effectivement le cas où les groupes exacerbent ces conflits, mais il y a aussi des situations où les groupes interviennent comme des régulateurs sociaux. Ils apparaissent comme des acteurs ou des médiateurs, des arbitres au niveau des conflits locaux. Je pense que les groupes extrémistes violents ne cherchent pas toujours à exacerber ou à instrumentaliser la violence locale. Dans certains cas, ils interviennent comme des médiateurs pour calmer les tensions au niveau local. Et dans d'autres cas aussi, leur arrivée, leur implantation contribue de facto à instaurer un certain ordre. Ils contribuent à geler les conflits et les tensions.
Et vous parlez dans cette région d'une véritable complicité, quelquefois, entre ces groupes extrémistes et les populations locales qui peuvent maintenant braconner, par exemple, en toute impunité?
Oui, il y a effectivement une forme de collaboration, des alliances de circonstances qui s'établissent dans certaines communautés. Là, vous faites particulièrement référence à la région de l'Est du Burkina, où il y a effectivement des tensions depuis plusieurs années qui opposent les communautés locales à l'État, aux représentants de l'État, notamment les agents des eaux et forêts autour d'espaces protégés dont l'accès est restreint aux populations, sinon interdit. Ils n'ont pas la possibilité de pratiquer la chasse, la pêche. Et les groupes extrémistes violents, en arrivant, ont exploité ces ressentiments-là en disant aux populations, votre État vous interdit de bénéficier de ces ressources naturelles qui vous appartiennent et qui n'appartiennent à personne d'autre. Nous, on vous autorise à le faire, on va même assurer votre protection. Et donc, ce positionnement a contribué au sein de certaines communautés à développer une forme de sympathie envers les groupes extrémistes violents qui ne sont pas perçus comme des oppresseurs, mais plutôt comme des réparateurs d'une injustice dont les populations s'estiment être victimes. Donc, c'était un moyen pour ces groupes de recruter, de renforcer leur rang.
Il y a certaines formes de sympathie, dites-vous, entre groupes extrémistes et populations locales, mais quand ces groupes djihadistes assassinent un chef de village ou un instituteur, comment réagissent les populations?
Alors, il n'est pas forcément dans l'intérêt des groupes d'arriver et de se mettre à assassiner des figures locales. Il y a toujours une tentative de pouvoir bénéficier du soutien de ces représentants, de ces figures traditionnelles, des chefferies. Et c'est lorsqu'ils ne parviennent pas à cette fin que très souvent, ils intimident. Et si l'autorité ne quitte pas la région, ça peut conduire à son assassinat.
Et justement, quand un groupe djihadiste assassine une figure locale, comment réagit la population?
Alors, elle est tétanisée. Il y a une situation de psychose qui s'instaure. Même souvent, lorsqu'on enregistre des attaques dans des villages voisins, il y a des psychoses qui commencent à s'établir.
Donc il n'y a pas que de la sympathie, il y a aussi de la peur.
Il y a très souvent de la peur. Généralement, c'est de la peur et dans certains cas, il y a de la sympathie, une forme de sympathie tout au monde.
Les trafics illégaux sont au cœur des stratégies de survie des groupes extrémistes, dites-vous. Et tout d'abord, le trafic d'armes. Dans votre rapport, on apprend que des groupes signataires de l'accord d'Alger, comme le MNLA, sont impliqués dans ce trafic d'armes.
Oui, effectivement. Effectivement, les groupes signataires apparaissent comme un acteur majeur de la prolifération des armes dans cette région, notamment au niveau de la frontière entre le Mali et le Niger.
Il y a donc des groupes signataires de l'accord d'Alger qui jouent double jeu?
Alors, on ne pourrait pas le dire ainsi, mais il y a des individus au sein de ces groupes armés signataires-là qui tremperaient dans un trafic d'armes dans la région.
Autre trafic, celui des motos qui sont très prisées par les groupes djihadistes. Vous décrivez les filières depuis le Nigeria, depuis le Togo, jusqu'au Burkina, jusqu'au Niger et jusqu'au Mali. Et vous expliquez que les motos les plus prisées sont les motos de marque Honda, qu'on appelle souvent Boko Haram. Pourquoi ?
Oui, alors effectivement, les groupes sont particulièrement friands de ce type de moto parce que ces motos sont réputées comme moins bruyantes et particulièrement robustes. Et alors, il y a aussi une dynamique qui s'est développée par rapport à l'association qui est faite entre les motos Honda et les groupes extrémistes violents. C'est que de plus en plus, les commerçants de motos sont réticents à commercialiser ce type de moto parce que, justement, elles sont trop associées aux groupes extrémistes violents.
Et à lire votre rapport, on a le sentiment que les groupes djihadistes s'insèrent de plus en plus dans l'économie locale de cette zone des trois frontières.
Alors effectivement, très souvent, on parle de financement reçu de l'extérieur, mais véritablement, c'est au niveau local que les groupes tentent de mobiliser des ressources. Et là, ça s'est observé dans le cas d'activités de vol et d'enlèvement de bétail, dans le cadre d'une forme d'impôt sur le bétail. Il y a aussi l'exploitation artisanale de l'or. Ça s'est vu notamment dans la région de l'Est du Burkina, dans le département de Torodide, à la frontière entre le Niger et le Burkina Faso, où véritablement, il y a une volonté de faire main basse sur les sites d'extraction artisanale de l'or avec en filigrane l'idée de pouvoir générer des ressources de cette activité.
Alors à vous écouter, on a l'impression que pour étouffer les groupes djihadistes, il faut déjà couper les filières de contrebande. Est-ce que c'est l'une des solutions ?
Peut-être pas, parce que ces trafics-là bénéficient largement aux populations de ces zones frontalières, de ces zones reculées. Donc mettre fin à ces trafics sera créer d'autres problèmes, des problèmes d'emploi. Donc il faudrait plutôt peut-être s'assurer à mieux contrôler cette activité-là, cette contrebande, à la réduire et aussi à s'assurer qu'elle ne bénéficie pas aux groupes extrémistes violents.
Les solutions sont locales, dites-vous.
Oui, les problèmes sont locaux, les stratégies sont locales, donc forcément les solutions sont locales et transnationales. C'est-à-dire, dans les zones frontalières, c'est forcément, les dynamiques sont transnationales, transfrontalières, donc il faudrait trouver des solutions de part et d'autre des frontières entre les autorités locales du Mali et du Niger, entre les autorités locales du Mali et du Burkina Faso.
William Assanvo, merci.